Isabelle Bauchet, vous êtes membre de la communauté apostolique Saint-François-Xavier, vous êtes docteur, docteur en philosophie, vous avez travaillé notamment au CNRS et vous êtes encore enseignante à la faculté Loyola. Vous êtes spécialiste de Saint-Augustin, vous avez notamment participé à la publication des commentaires des psaumes de Saint-Augustin, et c'est précisément ce dont vous venez nous parler ce soir, des commentaires des psaumes par Saint-Augustin. Merci beaucoup de nous faire la joie et l'honneur de votre présence.
Bon. Trois quarts d'heure en gros. Bien, bah, écoutez, ça va être une petite initiation. Je ne sais pas ce que vous savez. J'imagine que vous savez des choses variées suivant les uns et les autres. Donc, j'ai surtout, je voudrais parler des psaumes miroirs et remèdes selon Augustin. En fait, je vais me concentrer sur quelques commentaires hein, parce que ben, on a peu de temps. Donc, miroir, bon. Disons que vous, si je prends ce thème hein, que vous avez, que vous connaissez sûrement, d'abord, je vais tout droit à l'essentiel. Dans l'épître de Jacques, que vous connaissez sans doute, Jacques 1, 22-25, l'écriture est comparée à un miroir. Hein. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter, ce serait vous faire illusion. Car si quelqu'un écoute la parole sans la mettre en pratique, il est comparable à un homme qui observe dans un miroir son visage tel qu'il est et qui, aussitôt après, s'en va en oubliant comment il était. Bon, donc, thème du miroir, l'écriture comme miroir. Alors, Augustin ne cite quasiment jamais ce texte de Jacques, mais en revanche, il a écrit un livre qui s'appelle « Le Speculum », autrement dit « Le miroir », où il exhorte à se regarder dans l'écriture comme dans un miroir pour se rendre compte des progrès que l'on fait ou non par rapport aux commandements de Dieu. Alors, la thématique est explicite dans les commentaires des psaumes. Et donc là, je vous ai donné un premier texte, le commentaire du psaume 103, 1, 4. Hein. « Où regarder pour me voir » demandes-tu. « Il t'a tendu pour miroir ton écriture, son écriture. » On t'a lu ceci, « Bienheureux les hommes au cœur pur, ils verront Dieu. » Un miroir t'est présenté dans ce verset. « Regarde si tu es ce qu'il a dit. Si tu ne l'es pas encore, gémis pour le devenir. Le miroir te réfléchira à ton visage. Le miroir ne t'idéalisera pas. Ne te flatte pas, toi non plus. Sa surface polie te montre ce que tu es. Regarde ce que tu es. Et si cela te déplaît, cherche à ne plus l'être. » Donc, le miroir nous renvoie à notre propre image et il nous montre en même temps ce qu'il doit être. Et donc là, par exemple, d'une certaine façon, les psaumes peuvent nous entraîner à être autres. Regardez le commentaire du psaume 30. 2, 3, 1, ça c'est juste pour vous faire comprendre que ça veut dire deuxième homélie, troisième sermon, paragraphe 1. Autrement dit, vous pouvez imaginer le nombre de commentaires qu'il y a. Si le psaume prie, priez. S'il gémit, gémissez. S'il rend grâce, réjouissez-vous. S'il espère, espérez. S'il exprime la crainte, craignez. Car tout ce qui est écrit dans ce psaume est pour nous un miroir. Autrement dit, nous sommes vraiment invités pour Augustin à lire les psaumes en se les appropriant, en les faisant nôtres. Mais l'écriture n'est pas simplement pour Augustin un miroir, et les psaumes en particulier, elle est aussi un remède. Alors, bon, j'ai sauté faute de temps, mais bon, le thème de l'écriture comme remède, vous connaissez sans doute le Phèdre de Platon, mais donc la thématique du pharmacon, l'écriture comme pharmacon, avec toutes ses ambivalences. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Augustin aime beaucoup cette analogie médicale pour caractériser le salut apporté par le Christ. Le Christ, pour lui, enfin, il parle de l'écriture comme des livres de médecine. Et quand il était tout jeune, vous savez qu'il est devenu prêtre, je dirais, par acclamation publique, hein. Il passait à Hippone. Et tout le monde a dit « Augustin prêtre, Augustin prêtre ». Il faut dire que l'évêque Valerius était grec et ne parlait guère latin. Bon, et donc, il n'y avait aucun séminaire, rien du tout. Donc, Augustin elle dit, ben, donne-moi un congé sabbatique, en gros, de 6 mois, pour que je lise les remèdes des Écritures. Bon, c'est comme ça, medicamenta, scripturarum. Donc, pour lui, l'Écriture est vraiment ce qui peut guérir notre âme. Et ça vaut très particulièrement des psaumes. Commentaire du psaume 36. Chaque maladie de l'âme trouve son remède dans les Écritures. Que donc celui qui est assez malade pour parler ainsi, concrètement il s'agit de murmurer contre Dieu, boive la potion de notre psaume. Et par exemple, commentaire du psaume 74, ce psaume apporte à l'enflure de l'orgueil le remède de l'humilité et il console les humbles en espérance. Bon, bref, l'Écriture, enfin, et très particulièrement le psaume, non seulement on peut s'y reconnaître, mais on peut se laisser transformer par le psaume. Et c'est pour ça que j'ai appelé ça l'Écriture, les psaumes miroirs et remèdes. Et si vous avez lu les confessions, avez-vous lu les confessions ?
En partie.
En partie, bon, donc le livre neuf, le livre neuf des confessions, qui, bon, pour dire les choses de façon précise, c'est juste après la conversion, qui est racontée au livre 7-8, enfin essentiellement 8, et au livre 9, Augustin n'est pas encore baptisé, c'est donc juste avant son baptême. Et il se met à lire les psaumes. Et il explique dans le livre 9 ce qu'elle a été sa lecture du psaume 4. Alors on ne va pas entrer dans les détails, mais il faut bien voir hein, que il est sorti de 9 ans de manichéisme. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire, 9 ans dans une secte. C'est colossal quand même. Et donc, dans ce psaume, bon, il voit qu'il y a des ennemis, les ennemis sont les manichéens. Bon. Quel cri, donc là je vous ai mis le texte, quel cri, mon Dieu, j'ai poussé vers toi en lisant les psaumes de David, chant de foi, accent de piété, où n'entre aucune enflure d'esprit. J'étais alors un novice dans ton authentique amour, un catéchumène, en vacances dans la maison de campagne avec le catéchumène Alipus. Alipus, c'est un grand ami d'Augustin depuis toujours, qui ensuite a été évêque, tout comme Augustin. J'aurais voulu que les manichéens, donc il était sorti du manichéisme, se fussent trouvés là quelque part tout près à ce moment, et sans que j'aie su qu'ils y étaient, ils aient regardé mon visage et entendu mes cris lorsque je lus le psaume 4 en ces heures de loisir. Entendu, qu'ils aient entendu ce que fit de moi ce psaume. Qu'ils aient entendu ce que fit de moi ce psaume. Et il le cite du coup, « Comme je t'invoquais, tu m'as exaucé, Dieu de ma justice. Dans ma tribulation, tu m'as donné du large. Aie pitié de moi, Seigneur, et exauce-moi. Exauce ma prière, pardon. » Et après, il s'arrête sur le verset 7, « Qui nous montrera les biens ?» Bon, et... En fait, les lignes suivantes récapitulent quasiment tout le psaume. Oui, là où je m'étais irrité contre moi, à l'intérieur sur ma couche, où j'avais senti l'aiguillon du repentir, où j'avais offert un sacrifice, en immolant le vieil homme qui était en moi et en mettant dans l'entreprise engagée de ma rénovation mon espérance en toi, c'est là que tu avais commencé à devenir douceur pour moi et donner l'allégresse à mon cœur. Je m'écriais, car ce que je lisais au dehors, je le reconnaissais au dedans. Alors, je ne peux pas tout lire, mais ce que je lisais au dehors, je le reconnaissais au dedans. C'est ça pour Augustin, lire un psaume. C'est lire un psaume en y reconnaissant ses propres sentiments, ses propres états intérieurs, et de telle façon que le psaume vous transforme. Donc, ce que fit de moi ce psaume. C'est-à-dire la lecture du psaume est une lecture qui peut vraiment nous transformer, nous changer. Donc, appropriation du psaume, transformation par la lecture du psaume. Eh bien, c'est ça un petit peu ça que je voudrais vous montrer, en prenant deux exemples, parce que bon, vous ne pourrez certainement pas faire tout, mais deux exemples. Et les deux exemples sont, donc c'est le psaume 72 et le psaume 93, on pourrait aussi dire un mot si on voulait, du psaume 61. Les deux exemples sont des psaumes où le psalmiste traverse une crise. Et donc, ma question c'est, comment la prière des psaumes peut-elle nous permettre de traverser certaines crises en nous transformant nous-mêmes intérieurement ? Alors, dans les deux psaumes ont en commun que, si vous voulez, dans les deux psaumes, finalement, il y a des. Le psalmiste se met à douter de Dieu. En gros, le problème est le suivant, sur des psaumes de type sapientiel. Hein, je ne vous ai pas mis le texte du psaume, oui, j'ai supposé que vous aviez des Bibles, mais bon. Mais bon, ceci étant, on aura quelques versets. Mais, donc, dans les deux psaumes, le psalmite constate, vous avez ça très très souvent dans les psaumes, que tout réussit aux méchants et que le juste, lui, tout va de travers pour lui. Bon, et donc en fait, c'est le scandale, et malgré tout, c'est un scandale aujourd'hui encore, hein, enfin, qui peut atteindre quand même pas mal de gens, de se dire, mais moi je suis juste et tout va de travers pour moi, et les méchants, tout leur réussit. Donc, c'est ce type de situation qu'on va évoquer dans les deux psaumes, et on va voir comment le psaume permet de transformer ses sentiments intérieurs. Mais avant de prendre ces deux psaumes, je voudrais faire quelques remarques générales sur la lecture augustinienne des psaumes. De façon d'abord concrète. Tous les psaumes n'ont pas été prêchés, mais certains ont été dictés, mais je m'intéresse uniquement aux commentaires prêchés. N'imaginez pas Augustin écrivant à l'avance son commentaire. Non, pas du tout. Augustin travaille sûrement un peu son texte, il connaît beaucoup l'écriture, il connaît bien l'écriture, mais il prie, et il dit, avant de prier, il faut être orant avant que d'être un orateur. Hein. Je vous ai mis ce texte, la doctrine chrétienne 4.15.32, hein. Qu'il soit un orant avant d'être un orateur. Donc il prie, et ensuite il improvise. Et Augustin était un excellent orateur. Vous savez peut-être que il était professeur de rhétorique, qu'il a même prononcé, une fois ou l'autre, un panégyrique de l'empereur, et que, en tout cas, il était un si bon orateur que les païens, évidemment, il n'y avait pas de télévision, pas d'internet, pas tout, etc. Mais enfin, les païens venaient l'écouter pour le plaisir, si je puis dire. Parce que c'était quand même, c'était un spectacle, comme était le spectacle, les spectacles des jeux. Enfin, il y avait une sorte de. Voilà. Donc, on a des témoins, vous savez peut-être qu'on a découvert encore très récemment, François d'Elbeau a découvert des nouveaux sermons, et il y en a un, le sermon d'Elbeau 25, où il est dit, l'incipit, c'est « quand des païens entrent dans l'Église ». Donc des païens entrent dans l'Église, et alors Augustin fait un sermon adapté aux païens qui entrent. Voilà, il improvise. Et mais alors, vous allez me dire, mais comment a-t-on ces textes? Eh bien, on a ces textes parce que vous aviez des notaries qui prenaient extrêmement rapidement des notes qui aboutissaient à un texte qu'Augustin relisait et consignait dans sa bibliothèque. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il surveillait de très près quand même l'édition de ces textes, puisque ces textes, en fait, étaient ensuite recopiés et servaient pour les autres prêtres, qui, en gros, n'ayant aucune formation, eh ben, ils lisaient les textes faits par Augustin. Et c'est comme ça que les évêques, il n'y avait pas de séminaire, hein, c'est clair. Des Doctrina Christiana, dont j'ai évoqué un texte, c'est une sorte de manuel de formation des prêtres et des futurs prédicateurs. Mais donc, comme il n'y avait pas de formation, bah, il fallait bien qu'ils lisent quelque chose de tout fait, quoi, en gros. Enfin, aujourd'hui, quand on lit son homélie à partir d'Internet, c'est pas tellement différent. Bon, il y a d'autres solutions aujourd'hui. Bref. Mais voilà en gros comment se passait. Et vous aviez un auditoire très réactif. Augustin perçoit, il y a les mouvements de la foule. Enfin, je veux dire, c'est pas Athone, hein, l'église à Hippone ou à Carthage. Remarque encore pratique, donc Augustin ne commente pas le texte hébreu que vous avez dans la Bible de Jérusalem, par exemple, ou une autre Bible. Il commente la traduction latine de la Septante. Bon, vous savez peut-être qu'il y a des écarts entre la Septante et le texte massorétique, en particulier pour les psaumes. Bon, à part le décalage d'un numéro, pour faire simple, hein, il y a un décalage. Quand je parle du psaume 72 dans la Septante, c'est le psaume 73 dans l'hébreu, par exemple. Mais à part ça, il faut savoir que dans la Septante, vous avez très souvent. Bon, il y a un certain nombre de variantes par rapport au texte hébreu. Ce texte de la Septante a été fixé avant le texte massorétique, hein, par parenthèse. texte masorétique, parce que la vocalisation est plus tardive. Hein. Mais, donc, il y a pour le psautier des titres pour chaque psaume, ce qu'il n'y a pas nécessairement dans le texte hébreu. Je ne sais pas si vous voyez ce que sont les titres quand vous ouvrez une Bible. Vous avez des titres du style pour Yedutun, alors je vais le dire de façon moderne, Augustin va dire, ça va être pro-Iditain, pour Iditain, mais peu importe, pour les fils de Corée, pour Asaph, psaume d'Asaph, psaume de David, psaume de Salomon, quand David, etc. Vous voyez, donc ces titres qui sont un peu énigmatiques d'ailleurs, bon, on imagine qu'en fait ça désigne souvent des références à des chantres, enfin ça quand même ça permet de voir des collections de psaumes, je pense que vous avez dû voir ça peut-être un petit peu, mais Augustin, comme tous les pères de l'Église, estime que ces titres sont des clés des psaumes. Un titre, si vous voulez, pour lui, il compare ça à la pancarte que vous avez sur une maison et qui indique ce qui se passe dans la maison. Ce que fait, enfin, vous voyez, et il le dit en toutes lettres, je crois que j'ai mis ce texte, oui, le titre comme clé d'interprétation, au commentaire du psaume 53. Le titre de ce psaume, s'il est compris, est d'une longueur fructueuse, et puisque le psaume est bref, nous ne nous attarderons pas sur le psaume lui-même, mais nous compenserons en nous attardant sur le titre. Il y a quelquefois des homélies entières sur un titre. En effet, chacun des versets qu'on chante est en lien avec lui. Ah oui, mais c'est pour ça qu'il peut le lire. Si l'on prend connaissance du panneau placé sur la façade d'une maison, on y entrera avec assurance et on ne s'égarera pas une fois entré, car les indications de la porte montrent comment ne pas s'égarer à l'intérieur. Donc, le titre est une clé d'interprétation. Mais je fais un rapport, par exemple, avec Grégoire de Nice. Grégoire de Nice a écrit tout un traité sur les titres des psaumes. Je veux dire, c'est commun, c'est pas propre à Augustin de penser ça. Mais alors, du coup, évidemment, ça a quand même une incidence sur l'interprétation qui fait des textes. Parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas ça du tout comme ça. Et en plus, les titres étant parfaitement énigmatiques, dans bien des cas, vous comprenez, il ne va pas se contenter de recopier le mot hébreu. Enfin, il y a un mot hébreu, Abimélec, Iditain, Corée, Asaph. Mais donc il va, en fait, pour essayer de déchiffrer les titres des psaumes, il a recours à des onomastica, c'est-à-dire à les livres qui donnent la traduction de ces mots hébreux dans d'autres langues, en grec, en latin, etc. Et à partir de là, donc, il fait toute une interprétation allégorique du psaume. Si vous voulez, on va voir Asaph, par exemple. Asaph, ça veut dire, ça va être la synagogue. Bon, donc le psaume est dit par le peuple juif. Iditain, c'est Jérôme qui a cette traduction, mais Augustin, donc on ne sait même pas toujours d'où Augustin tire ses équivalences de noms. Il comprend pour celui qui les dépasse. Pour celui qui les dépasse. Bon, il comprend transilienseos. Mais alors du coup, ça donne une clé de lecture pour le psaume. Alors, dernier élément important, général, pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. La grande question, et ce n'est pas Augustin seulement, c'est qui parle dans le psaume? La grande question pour interpréter le texte. Et là, Augustin a une lecture très unifiée de tout le psautier, et très forte, et qui, à mon avis, peut être très valable aujourd'hui encore. Pour lui, par principe, c'est le Christ qui parle dans tous les psaumes. Mais attention, pas le Christ uniquement comme individu, mais le Christ comme tête du corps. Autrement dit, c'est le Christ total. Vous saisissez ça? Donc le Christ tête et corps. Bon, cette lecture, quand vous y réfléchissez bien, le Christ lui-même a prié avec les psaumes. L'Église prie avec les psaumes. Et donc, enfin en tout cas pour Augustin, tous les psaumes doivent être lus, peuvent être lus, en pensant qu'ils sont dits par le Christ total. Et l'important, c'est de savoir discerner qui parle à quel moment. Bon, concrètement, je vous ai donné un extrait un petit peu long du commentaire du psaume 37, mais j'explique le principe. Le développement d'Augustin est relatif au psaume 21. « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Impossible de dire que ce n'est pas le Christ qui a dit ça. C'est évident, le Christ l'a prononcé dans l'Évangile. Donc, le Christ dit ce psaume. Ah oui, mais, deuxième verset, il est question des fautes. « Loin de mon salut, les paroles de mes fautes. » Ah oui, mais alors le Christ n'a pas péché. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Réponse d'Augustin, il faut discerner dans le psaume si le Christ parle en tant que tête ou s'il le parle au nom de ses membres. Mais quand vous y regardez bien, donc, mais en même temps, Augustin dit clairement, il y a une seule voix. C'est-à-dire que le Christ fait nôtre, fait sienne, pardon, le Christ fait sienne les paroles de ses membres. Vous voyez, donc si vous voulez, on peut en quelque sorte entrer dans la prière du Christ. Vous voyez, c'est ça ce que ça signifie. Et donc, je ne sais pas si vous lisez régulièrement les psaumes, le Fils, mais pensez que vous lisez les psaumes dans le Christ total, ça donne une autre ampleur à votre lecture des psaumes. Vous le lisez avec le Christ et toute l'Église. Vous voyez, et donc finalement, au nom de toute l'humanité. Bon, mais il faut bien sûr toujours faire la distinction que je viens de dire. Je vais volontairement vite et je prends donc un premier exemple, j'espère que j'arriverai à en prendre un deuxième, le psaume 72. Concrètement, si je présente le psaume, donc ce psaume appartient à la littérature sapientielle, enfin quand je dis je le présente pour des gens d'aujourd'hui, quoi, enfin ce que vous pouvez lire dans des exégètes contemporains. Bon, donc il y a une crise, Dieu qui est bon. Il y a une crise du psalmiste. Hein. À son avis, Dieu qui est bon devrait donner des bienfaits aux justes et les retirer aux méchants. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et donc dans ce psaume, le psalmiste, finalement, il est à deux doigts de tomber. Hein, pour un peu, mes pieds déviaient, hein, rien. Là, je lis dans une traduction moderne. Et mes pas glissaient, envieux que j'étais des insensés en voyant la paix des méchants. Bon. Enfin, et la crise va aller si bien qu'il y a un moment où il va finir par douter quasiment de Dieu. Bon, et donc concrètement, vous avez une première moitié du psaume où on voit la plainte du psalmiste face au comportement des impies. Et dans cette première moitié du psaume, il parle de Dieu en troisième personne. Et puis, à partir du verset 18, il y a une sorte de retournement. Verset 17-18, il y a un retournement, et à ce moment-là, il va s'adresser à Dieu et confesser sa foi. Et alors, toute la question, enfin, ce que je vais essayer de mettre en évidence, c'est comment s'opère ce retournement. Donc, je disais tout à l'heure que, bon, si vous avez une Bible même moderne, il est dit psaume d'Asaph. Donc, Asaph, c'est la synagogue. Donc, ce psaume traite d'abord du peuple juif, très spécifiquement. Et quand il faut savoir, parce qu'on dit quand même souvent beaucoup de bêtises à propos d'Augustin et des Juifs, il faut savoir que là, dans ce commentaire de psaume, vous avez le texte si vous voulez, vous le lirez, Augustin dit, mais il ne pensait pas tout de suite que le peuple juif, c'est celui qui a tué le Christ. Le peuple juif, c'est aussi du peuple juif que viennent les apôtres, que vient Pierre, Paul, etc., et en gros, pour lui, il parle toujours de l'Église qui vient, c'est le Christ qui est la pierre d'angle. Il y a deux murs, il y a le peuple juif et le peuple et les nations. Bon, donc pour lui, il y a des chrétiens issus du judaïsme, autrement dit, et pour lui, c'est une chose importante. Mais alors, le titre du psaume, que vous n'avez certainement pas dans des choses contemporaines, dans des éditions contemporaines, il y ajoute, les hymnes faisaient défaut. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, les hymnes faisaient défaut? Eh bien, c'est ça la question qu'Augustin va essayer d'éclairer en disant, si les hymnes faisaient défaut, c'est bien, enfin, pour lui, ça éclaire le psaume, c'est-à-dire, puisque le peuple constatait que il n'avait plus les biens qu'il espérait, du coup, il ne louait plus Dieu. C'est pour ça que les hymnes faisaient défaut. Donc, vous avez le texte. Hein, on va prendre le paragraphe 6. Hein, c'est page 3, paragraphe 6 en bas. Le paragraphe 6 résume l'interprétation globale du psaume. Voilà le sentiment exprimé dans ce psaume par le peuple qui défaille et chancelle. Quand il considère que ses biens terrestres, pour lesquels il servait Dieu, étaient en abondance chez ceux qui ne servaient pas Dieu, il chancelle et il est prêt de tomber. Il défaille en même temps que les hymnes, parce que dans de tels cœurs, les hymnes faisaient défaut. Comment comprendre dans de tels cœurs, les hymnes faisaient défaut? Parce qu'ils avaient de telles pensées, ils ne louaient pas Dieu. Comment, en effet, pouvaient-ils louer Dieu qui leur semblait agir de façon perverse quand il donnait une si grande félicité aux impies et en privait ceux qui le servaient? Donc, ça, c'est le premier temps du psaume. Par la suite, le peuple a compris ce que Dieu l'avertissait de chercher quand il ôtait à ses serviteurs ses biens temporels et en faisait don à ses ennemis, les blasphémateurs et les impies. Averti par Dieu, il comprit qu'au-dessus de tout, ce que Dieu donne à la fois aux bons et aux méchants, et que parfois il enlève à la fois aux bons et aux méchants, au-dessus de tout cela, il réserve quelque chose aux bons. Que leur réserve-t-il? Lui-même. Autrement dit, l'itinéraire que va faire le psalmiste, c'est de passer de l'attente des biens temporels qu'il attendait comme une sorte de récompense quasiment due pour sa justice, à l'attente de Dieu seul, finalement, à la recherche de Dieu seul. Donc évidemment, c'est une conversion assez radicale de sa manière de voir. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment Augustin analyse la crise que traverse le psaume, le psalmiste, je veux dire. En fait, il utilise même là un vocabulaire médical, technique. Il va parler des jours critiques, d'accès critique. Ce sont des termes qu'on trouve chez Hippocrate, chez Cels, notamment dans le De Medicina de Cels, ou Galien. Donc les jours critiques, même aujourd'hui encore, on parle de jours critiques. Les jours critiques, c'est les jours où se décide le sort de la maladie. Vous savez, on dit s'il traverse telle crise, ça va... Bon, il sera sauvé, quoi. Enfin, il y a des jours critiques, c'est-à-dire des jours où ça peut basculer vers la vie ou vers la mort. Donc, c'est évidemment déterminant. Donc, c'est ce qu'explique Augustin. Et, évidemment, en fait, son idée, à travers cette métaphore, c'est de faire comprendre le retournement radical, inattendu du psaume, qui passe du blasphème contre Dieu, jusque, finalement, il va dire à la fin... « Mon bonheur, c'est toi, en gros. Hein. » il dit ça en toutes lettres. « Mon bonheur à moi, c'est d'être uni à Dieu. » Bon, « Mon bonheur, c'est d'être uni à Dieu », c'est évidemment un tout autre langage. Alors, je vous propose de lire le paragraphe 20. « C'est ce qui arrive ordinairement aux malades. Le mal est plus calme quand la guérison est lointaine, et leur fièvre croît quand la guérison est proche. » Les médecins parlent de l'accès critique qui est un passage vers la guérison. La fièvre est alors plus forte, mais elle mène à la santé. La température est alors plus haute, mais le rétablissement est proche. Ainsi de la fièvre qui agite notre psalmiste. En effet, frère, c'est prononcer des paroles périlleuses, choquantes et presque blasphématoires que dire « Comment Dieu a-t-il su ?» C'est verset 11. Bon, dans la traduction moderne, on dit, ils disent « Comment Dieu saurait-il ?» Donc, « Comment Dieu a-t-il su ?» Presque. Il n'a pas dit « Dieu a ignoré », il n'a pas dit « Il n'y a pas de connaissance chez le Très-Haut », mais il a dit, en formulant une interrogation, en hésitant, en doutant, cela correspond à ce qu'il a dit plus haut, mais pas « ont presque glissé », c'était au verset 2, « Comment Dieu a-t-il su ?» et « Y a-t-il connaissance chez le Très-Haut ?» Ce n'est pas une affirmation, mais le doute lui-même est périlleux. Le péril le fait passer à la guérison. Bon, déjà, une chose que je remarque et qui me semble importante, y compris dans notre vie spirituelle à nous, c'est que le psalmiste, il ose exprimer devant Dieu ses sentiments, y compris ceux qui sont les plus problématiques, y compris son doute, son désespoir. Et en fait, si on y réfléchit bien, c'est la seule solution pour que Dieu transforme éventuellement le sentiment qu'on a. Parce que si on fait comme si ça n'existe pas, si on se compose un personnage, Dieu ne nous transformera jamais. Alors, là, ce qui est intéressant, c'est de voir comment le psalmiste s'est transformé selon Augustin. Pour Augustin, en fait, c'est par l'écriture que le psalmiste est transformé. C'est-à-dire que le psalmiste se rend compte tout à coup que s'il disait « Dieu ne s'occupe pas de moi », il dirait exactement le contraire de tout l'enseignement de l'écriture. On peut lire le paragraphe 21. « L'homme veut parfois se laisser aller à proférer cette idée. » Cette idée, c'est-à-dire que Dieu ne s'occupe pas de nous. Mais il est retenu par les Écritures qui disent de vivre toujours bien, qui disent que Dieu a souci des affaires des hommes, que Dieu distingue l'homme pieux de l'impie. Donc, bien qu'il veuille exprimer cette idée, il se retient et que dit-il ? Si je disais, je vais parler ainsi, voilà, j'ai désapprouvé la race de tes fils. Alors il commente, j'ai désapprouvé la race de tes fils. Si je parle ainsi, je désapprouverai la race des justes. Et selon ce que l'on trouve dans certains manuscrits, voilà, dans la race de tes fils, avec qui ai-je été en harmonie ? Il faut savoir qu'Augustin, à défaut de recours éventuellement au grec, il compare les traductions latines. Et bon, c'est pas par hasard en fait qu'il donne ce type de traduction. Voilà, dans la race de tes fils, avec qui ai-je été en harmonie ? C'est-à-dire, avec lequel de tes fils ai-je été en harmonie ? Autrement dit, avec lequel ai-je été en accord ? Auquel ai-je été conforme ? Phrase importante, je suis en dissonance avec tous si j'enseigne ainsi. C'est-à-dire qu'il se rend compte que ce qu'il dit, c'est exactement le contraire du message général de l'Écriture. Est en effet en harmonie celui qui est consonant ? Qui n'est pas consonant n'est pas en harmonie. Vais-je dire autre chose qu'Abraham, autre chose qu'Isaac, autre chose que Jacob, autre chose que les prophètes ? Car tous ont dit que Dieu a souci des affaires humaines. Et moi, je vais dire qu'il n'en a pas souci ? Y a-t-il en moi une sagesse plus grande que la leur ? Une intelligence plus grande que la leur ? La très salutaire autorité a retenu ma pensée et l'a préservée de l'impiété. Donc vous voyez, c'est salutaire, il faut bien comprendre, salus en latin, c'est à la fois le salut, mais c'est aussi la santé. Donc d'où ce jeu de mots, c'est pour ça que le Christ est souvent appelé le médecin. Donc l'autorité de l'écriture est principe de salut, source de salut. C'est-à-dire qu'il ne veut pas se séparer de Dieu quand même, donc il se conforme à la parole qu'il a lue, qu'il a entendue, et tout d'un coup, ça va le faire basculer. Alors, en réalité, ça ne se fait pas instantanément, parce qu'il commence par dire qu'il va chercher à comprendre. Et puis, après, simplement, si vous voulez, c'est au verset 16, « J'ai donc réfléchi pour comprendre. Ce fut un tourment à mes yeux. Jusqu'à ce que, pénétrant dans les secrets de Dieu, j'ai discerné leur fin. » Alors, lisons le commentaire de cela. C'est le paragraphe 22. « J'ai entrepris de chercher à comprendre. » Il a entrepris de chercher à comprendre, que Dieu l'assiste pour qu'il comprenne. Dans l'intervalle, frère, il est préservé d'une chute grave. Du moment qu'il ne se targue plus de savoir, mais qu'il a entrepris de chercher à comprendre ce qu'il ignorait. Donc, finalement, il y a déjà un progrès considérable, c'est de dire, au lieu de dire « Dieu ne s'occupe pas de moi », de dire « je voudrais quand même arriver à comprendre, chercher à comprendre ». Déjà, ne pas affirmer péremptoirement, c'est déjà un progrès. « J'ai là devant moi un labeur », toujours le même verset, « dur labeur vraiment que de chercher à comprendre comment Dieu a souci des affaires humaines et comment il se fait que les choses vont bien pour les méchants et mal pour les bons ». Objectivement, c'est toujours aussi dur aujourd'hui. Question de grande importance. Aussi, j'ai là devant moi un labeur. C'est comme un mur que j'ai devant moi. Mais tu as la parole du psaume. Vous voyez, là, le psaume, c'est en quelque sorte... peut-être que vous, ça vous arrive. Moi, j'ai des paroles de psaume qui reviennent et qui, en fait, libèrent des blocs. Et donc là, la parole du psaume, « Avec mon Dieu, je franchirai le mur. » Avec mon Dieu, je franchirai le mur. Donc, j'ai là devant moi un labeur. Alors, paragraphe suivant, mais c'est aussitôt après. Tu dis vrai, devant toi c'est un labeur, mais ce n'en est pas un devant Dieu. Imagine-toi devant Dieu, là où il n'est pas de labeur, et pour toi non plus, il n'y aura plus de labeur. Et c'est ce que fait le psalmiste. En effet, tant que le travail est devant lui, Il dit « Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu et aurai l'intelligence des choses dernières. D'où me viendra l'intelligence dernière ? Il me faut pour cela entrer dans le sanctuaire de Dieu. Là donc, le psalmiste a compris pourquoi ces gens-là sont maintenant heureux. » Donc, vous voyez bien l'écart entre chercher par soi-même et finalement avoir une sorte de révélation intérieure de Dieu. En fait, c'est ça qui est décrit dans le texte. Et alors, quelle est la révélation ? Qu'est-ce qu'il va comprendre ? Eh bien, il va comprendre que le seul bien véritable, c'est Dieu. Si je lis la suite du psaume, au verset 22, « Quand s'aigrissait mon cœur, quand j'avais les reins transpercés, j'étais stupide et je ne comprenais pas. » Lui, il dit, Augustin, j'étais comme une brute, j'étais comme un animal. Bon, et je ne comprenais pas. « Mais je suis constamment près de toi, tu m'as saisi par ma main droite. » Autrement dit, ce qu'il réalise, c'est que certes, il traverse une période terrible, mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu est avec lui dans la souffrance qu'il traverse. Et donc, il y a toute une transformation qui s'opère. Lisons le paragraphe 31. Il se met à songer au bonheur céleste, à s'accuser d'avoir été une bête et d'avoir désiré les choses de la terre. Qu'y a-t-il en effet pour moi dans le ciel et qu'ai-je voulu obtenir de toi sur la terre ? Verset 25. Je vois à vous entendre que vous avez compris. Il a comparé ses aspirations terrestres à la récompense céleste qu'il va recevoir. Il a vu ce qui lui était réservé là-bas. Il a réfléchi et enflammé par la pensée d'une réalité ineffable que l'œil n'a pas vue, que l'oreille n'a pas entendue et qui n'est pas montée au cœur de l'homme. Bon, et là j'ai coupé. « Tu me réserves dans le ciel, dit-il, d'immortelles richesses, toi-même. » Bon, autrement dit, il a voulu obtenir des tas de choses que les impies veulent, mais en fait, et finalement, il reconnaît qu'il a fait erreur, que sa quête n'était pas la bonne. Vous voyez, j'ai désiré obtenir cela de Dieu comme si cela avait un grand prix, alors que c'est lui-même que mon Dieu me réserve dans le ciel. Et du coup, paragraphe 34, verset 28, c'est-à-dire le dernier verset du psaume. « Pour moi, mon bien est d'être uni à Dieu. » C'est là le souverain bien. Vous voulez davantage ? Je plains ceux qui le veulent. Frère, que voulez-vous de plus ? Il n'y a rien de meilleur que d'être uni à Dieu quand nous le verrons face à face. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Parce que je parle encore en exilé, si mon bien est d'être uni à Dieu, dit le psalmiste, aujourd'hui en cet exil, quand la réalité n'est pas encore là, mon bien est de placer en Dieu mon espérance. C'est toujours le verset 28. Aussi longtemps que tu n'es pas uni à lui, place là ton espérance, encore ballottée par les flots, jette ton ancre vers la terre. Tu n'es pas encore amarré par la présence face à face, sois-lui uni par l'espérance. Et que fais-tu ici-bas en plaçant en Dieu ton espérance ? Quelle sera ta tâche, sinon de louer celui que tu aimes et de faire en sorte que d'autres l'aiment avec toi ? Donc vous voyez, le psalmiste doutait et maintenant, il va louer Dieu et être capable d'entraîner les autres à aimer Dieu. Donc, je pense que vous avez bien compris ce retournement radical. Je précise que ce psaume est cité à un endroit stratégique dans la Cité de Dieu, au livre 10, paragraphe 25. Le livre 10, c'est la plaque tournante de la Cité de Dieu. Et en fait, il est présenté comme l'itinéraire du peuple juif qui passe ainsi de l'ancienne à la nouvelle alliance. Et qui, de l'ancienne alliance, où malgré tout il attendait une terre, une récompense temporelle, à la nouvelle alliance, où ben, finalement, donc, la reconnaissance du Christ. Voilà. Je prends encore le commentaire du psaume 93, ça va, vous avez encore de façon brève. Alors, le psaume 93, c'est aussi un psaume de type sapientiel. Disons que là, c'est plutôt l'appel au Dieu des vengeances. Vous voyez, ça commence, Dieu des vengeances, Seigneur, Dieu des vengeances, paraît. Bon, donc en fait, le psalmiste a des ennemis, il n'a qu'une seule envie, c'est que Dieu l'en débarrasse, soyons clairs. Bon, reste à savoir si c'est tout à fait conforme à la visée de l'Écriture, là encore. de vouloir que Dieu vous débarrasse de vos ennemis. C'est mieux que de vouloir se rendre justice à soi-même, on est d'accord. C'est quand même peut-être pas l'idéal de l'idéal. Voilà. Et donc, en fait, on voit, si on prend le psaume dans son ensemble, qu'après, donc une première partie, l'appel au Dieu de vengeance, versets 1 à 7, le psalmiste prend à partie ses adversaires insensés, qui pensent que Dieu ne voit pas, ce sont les versets 8 à 11, et il décrit en opposition le bonheur de ceux que Dieu inscrit, ce Dieu instruit, versets 12 à 15. Et puis à la fin, donc il a vraiment changé, le psalmiste dit sa confiance d'être entendu par Dieu, et donc exaucé par Dieu. Voilà. Alors, le titre du psaume que vous n'avez pas, dans les Bibles modernes, est très compliqué. C'est « Psaume de David pour le quatrième jour après le sabbat ». Alors, bien sûr, c'est... Bon, ça, c'est... En fait, ce sont de très très beaux morceaux. Enfin, si du moins on aime ce genre de littérature. Le quatrième jour après le sabbat. Alors, vous essayez de réfléchir comment il va comprendre ça. Ben, vous dites le sabbat, donc lui, il fait une référence à la Genèse. Donc, il se dit le quatrième jour après le sabbat, c'est le jour de la création des luminaires. Bon. Création des luminaires, donc Dieu fixe le soleil, la lune, etc., les astres au firmament. Alors, qu'est-ce que c'est que le firmament ? Et qu'est-ce que sont les luminaires ? Je résume tout. Le firmament, il va montrer que le firmament, c'est l'écriture. Mon habilitation, je l'ai intitulée, enfin ma thèse publiée, Le firmament de l'écriture. Donc, l'herméneutique augustine. Donc, l'écriture et le firmament. Pourquoi il faut le comprendre ? C'est parce que vous avez un psaume qui dit que. Il a étendu le ciel comme une peau. Mais comme une peau, Augustin pense à un parchemin. Donc, du coup, il a étendu le ciel comme une peau, ben, ça devient le symbole de l'écriture. Bon, mais alors, du coup, les astres, c'est quoi ? Eh bien, les astres, eh bien, ce sont les hommes, les croyants, qui s'accrochent à l'écriture. Et, évidemment, ça devient une très, très belle comparaison, parce que, du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Ben, ça veut dire qu'en en lisant l'écriture, en la méditant, on va avoir la stabilité des astres. C'est-à-dire qu'on ne va pas se laisser totalement bouleverser par tous les problèmes de ce monde, mais on va avoir en quelque sorte un point fixe. Un point fixe dans l'écriture, dans la parole de Dieu. Bon, donc je vous ai résumé en gros le sens du titre. Mais donc c'est en même temps le sens du psaume. C'est-à-dire qu'on va voir comment le psalmiste va arriver à ce point fixe, alors qu'au point de départ, il commence par demander que Dieu le venge. Et intéressant, c'est vous allez regarder le paragraphe 8-9, hein, puisque je ne lis pas tout, faute de temps. Donc c'est en page 6 en haut. Vous allez voir l'analogie qu'Augustin prend, qui me semble très éclairante. « Élève-toi, juge de la terre, rends aux orgueilleux ce qu'ils ont mérité. » Donc ça, c'est la prière naturelle du psalmiste. Je pense que ça peut être la nôtre de temps en temps. « Rendra-t-il donc à chacun la peine méritée ? Il la rendra, mais aux orgueilleux. Mais quand ? Quand la rendra-t-il ? En attendant, les méchants triomphent, les méchants exultent, les méchants blasphèment et font toutes sortes de mal. Cela t'émeut ? Cherche avec piété. » Ne critique pas avec orgueil. Cela t'émeut ? Le psaume compatit à ta peine. Il cherche avec toi, non qu'il ne sache pas, mais il cherche avec toi pour que tu trouves en lui ce que tu ne savais pas. Oui, c'est vraiment le psaume comme miroir. C'est-à-dire que le psaume qui nous renvoie en quelque sorte nos propres sentiments, de telle façon qu'on puisse faire nôtre la prière du psaume. Vous voyez, et qu'on puisse dire sa peine, chercher et se plaindre éventuellement. C'est comme lorsqu'on veut consoler quelqu'un. Si l'on ne partage pas sa douleur, on ne le relève pas de son abattement. On s'afflige d'abord avec lui et on lui redonne des forces par des paroles de consolation. Si au contraire on s'approche de lui en se riant de son chagrin, on ne fait pas ce que dit l'apôtre dont nous avons entendu la lecture. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ainsi donc, pour qu'il puisse se réjouir avec toi, tu commences par pleurer avec lui. Tu t'attristes avec lui pour lui redonner des forces. De même, dans le psaume, l'Esprit de Dieu, bien qu'il sache toutes choses, cherche avec toi et dit en quelque sorte tes propres paroles. Jusque à quand, Seigneur, jusque à quand les pécheurs se glorifieront-ils, etc. Bon. Je pense que vous avez tous fait cette expérience, que quand tout va de travers et qu'on vous dit « Mais non, c'est rien, t'inquiète pas », ça ne vous réussit pas nécessairement. Il faut d'abord pouvoir entendre la plainte. Alors, comment va se transformer son cœur ? Ben, je saute bien évidemment beaucoup de choses. Vous imaginez que les homélies, elles étaient très longues, hein, quand même. Parce que vous n'avez que des tout petits bouts, et qu'en gros, il y en avait pour une heure d'homélie au minimum, parfois deux. Mais on n'avait pas beaucoup d'occupations par ailleurs. Enfin, beaucoup d'occupations, oui, mais enfin, je veux dire, c'était un autre rythme quand même. Alors, donc la transformation, on la voit au paragraphe 18. Alors, en fait, le verset 15 du psaume, c'est « Jusqu'à ce que la justice soit changée en jugement, tous ceux qui la possèdent ont le cœur droit. » Alors, ce qu'Augustin explique, c'est que il faut la justice soit changée en jugement. Nous sommes appelés, enfin les apôtres sont appelés à siéger sur des trônes pour juger la terre. Et nous, éventuellement aussi. Mais ce qu'Augustin explique, c'est qu'il faut commencer par être juste. Et ce n'est que plus tard qu'on pourra juger. Et donc, vous voyez bien, le psalmiste, lui, il est en train de juger les autres et de dire, bah, tu devrais bien les anéantir. Donc, mais en fait, il met les choses à l'envers. Il faudrait d'abord que lui soit juste. Plus tard, il jugera avec le Christ. Et la suite du verset le dit clairement, « Tous ceux qui la possèdent ont le cœur droit. » Et le problème du psalmiste, précisément, c'est d'avoir un cœur tortueux et non pas un cœur droit. Quels sont ceux, c'est au milieu du paragraphe, qui ont le cœur droit ? Ceux qui veulent ce que Dieu veut. Il épargne les pécheurs et toi, tu veux que déjà, ils perdent les pécheurs ? Ah, il est en train de réaliser que sa volonté n'est peut-être pas tout à fait conforme à celle de Dieu. Ton cœur n'est pas droit et ta volonté est pervertie. Lorsque tu veux une chose et que Dieu en veut une autre. Dieu veut épargner les méchants, tu ne veux pas qu'ils soient épargnés. Dieu est patient pour les pécheurs, tu ne veux pas supporter les pécheurs. Comme j'ai commencé à le dire, tu veux une chose, Dieu en veut une autre. Convertis ton cœur et redresse-le vers Dieu, car le Seigneur a eu compassion des faibles. Il a vu dans son corps, c'est-à-dire dans son église, des hommes faibles qui voudraient d'abord suivre leur propre volonté, mais qui, voyant que la volonté de Dieu était autre, se redresseraient et redresseraient leur cœur pour accepter et suivre la volonté de Dieu. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, donc c'est le Christ qui dit le psaume, le Christ à tes corps. Et donc, en fait, ce que Augustin avait évoqué, c'est que la transformation du psalmiste n'est possible que dans le Christ. À cause de la parole de l'agonie, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et donc, vous voyez bien que dans l'agonie, le Christ commence par dire, vous l'avez dans le texte, au paragraphe 19, « Père, si c'est possible que ce calice s'éloigne de moi. » Bon, il a montré, donc je lis la suite, hein. Quatrième ligne ou cinquième ligne du paragraphe 19. Figurant d'avance en lui ou en son corps ces hommes faibles, parlant au nom de ces hommes faibles auxquels il compatissait, autrement dit, en notre nom à nous, enfin, sauf si vous êtes des héros, il dit « Père, si c'est possible, que ce calice passe loin de moi. » Il a montré la volonté de l'homme, mais s'il avait persisté dans cette volonté, il aurait semblé montrer un cœur détourné de la voie droite. Mais s'il a été compatissant envers toi, et s'il te délivre en lui, imite ce qui suit et dit « Mais non, ce que je veux, mais ce que tu veux, Père. » Si une volonté toute humaine a commencé par se glisser en toi, « Oh, si Dieu faisait périr mon ennemi, afin qu'il cesse de me persécuter. Oh, s'il pouvait arriver que je ne souffre pas par lui de si grands maux. » Alors, si tu as persévéré dans cette pensée, si elle te plaît, et que tu vois que ce n'est pas ce que Dieu veut, ton cœur n'est pas droit. Tu ne possèdes pas la justice qui sera en jugement, car tous ceux qui la possèdent ont le cœur droit. Oui, mais concrètement, donc, le psalmiste va corriger, se corriger, Et donc vous l'avez au paragraphe 27 ou 28. Vois comment le psaume désormais se corrige et corrige-toi avec le psaume, parce que la fin du psaume n'a plus du tout les mêmes mots. Quels étaient tes mots ? Jusques à quand les pécheurs, jusques à quand les pécheurs se glorifieront-ils ? Ça, c'était le verset 3. Le psaume prenait tes mots. Maintenant donc, prends les mots du psaume. Quels sont les mots du psaume ? Le Seigneur est devenu pour moi un refuge et mon Dieu le secours de mon espérance. Verset 22. Donc vous voyez cette sorte d'échange, c'est-à-dire que le psaume comporte des paroles qui sont des paroles très humaines, mais la transformation du psalmiste fait que ben, ça peut être notre propre transformation. Et donc je dirais, ce qui me semble important ici, c'est de voir comment les psaumes, bon, en tout cas ce type de psaume, hein, puis il y a d'autres pour en exprimer autre chose, en permettant d'exprimer notre propre détresse, notre propre incompréhension, voire notre désir de vengeance, eh bien, c'est ce qui, en même temps, et puis d'exposer ça à Dieu, devant Dieu, ben c'est la condition pour que Dieu puisse transformer notre désir, notre volonté, et je dirais pour que nous éprouvions nous aussi comment le Christ a compassion de notre faiblesse, puisque nous sommes des membres de son corps et qu'il peut nous transformer vraiment en lui. Voilà, je pense que j'ai suffisamment parlé, donc je m'arrête là. Si vous avez envie de lire, vous lirez le commentaire du psaume 61. Là, pour dire en deux mots, pour vous ayez envie de lire quand même, le commentaire en question, au fond de l'église, il y a un astrologue. Et l'astrologue, en fait, plein de chrétiens dans la communauté ont été dupes de cet astrologue, ont perdu beaucoup d'argent, enfin bref. Donc, l'astrologue, en fait, il se présente pour devenir un pénitent. Évidemment, la communauté n'en a qu'une envie très limitée, parce qu'ils se sont fait suffisamment avoir par l'astrologue. Et en fait, à mon avis, tout le commentaire du psaume, qui est un très beau commentaire, est une manière d'arriver à leur dire, mais écoutez, le Christ a soif, parce que bien, j'ai couru dans ma soif, le Christ a soif de ses pécheurs, et bien, accueillez-le, et maintenant, occupez-vous de lui, enfin, de telle façon qu'il puisse réintégrer la communauté chrétienne. Voilà. Bon, c'est ça le but, hein. Mais le commentaire du psaume est nettement plus complexe que ce que je viens d'évoquer. Voilà. Je suis libre pour vous poser des questions.
Est-ce qu'il y a des questions ?
J'ai été très vite, mais bon. Oui ?
Une question rapide. En lien avec l'attribution du jeu, celui qui parle dans le psaume,
oui.
Vous avez dit que c'était toujours le Christ total.
Oui.
Parfois le Christ en tant que tête, parfois le Christ, oui, en tant que corps. Oui. Même parfois le Christ dans sa nature humaine et parfois le Christ...
Oui, tout à fait, c'est tout à fait juste, oui.
Est-ce que donc Saint-Augustin
puisse
aussi dans les psaumes de quoi nourrir sa christologie?
Ah oui, il y a une christologie très importante, oui, tout à fait. Dans oui, bien sûr. Oui.
Et qu'est-ce que ça donne
Qu'est-ce que ça donne? C'est-à-dire qu'en fait, je dirais, le plus intéressant dans les commentaires des psaumes, c'est cette thématique du Christ total. C'est-à-dire donc du lien entre le Christ et son Église. C'est ça qu'il a beaucoup, beaucoup développé de façon très, tout à fait unique. Parce que sinon, sa christologie, bien sûr, elle ne peut pas se fonder uniquement sur les psaumes, ce n'est pas possible. En fait, la christologie, elle vient quand même d'ailleurs. Comprenez bien que pour Augustin, il n'y a pas... Enfin, tous les textes, c'est une véritable concordance vivante. Hein. Je pense que vous saisissez. Il y a tel mot et ça évoque tel autre verset. Donc, il n'y a pas... Enfin, je dirais, le Nouveau Testament renvoie à l'Ancien et l'Ancien au Nouveau continuellement. Donc, à partir de là, je ne dirais pas que dans les psaumes, il va trouver une christologie, parce que ça, ce n'est pas possible. Mais par contre, il prend très au sérieux chaque fois que tel verset de psaume a été dit par le Christ, parce qu'on le voit, ou a été appliqué au Christ, ben, à travers les évangiles, on voit bien. Donc, à ce moment-là, éventuellement, il élabore un petit peu quelque chose, vous voyez, du point de vue christologique. Mais il y a quand même assez peu d'exemples. Hein. Mais, disons quand même que ça l'oblige à prendre au sérieux le cri d'abandon du Christ, vous voyez, la détresse du Christ. Bon, quand même, vous avez... Et ça, c'est quand même déjà pas mal. Il y a une chose qui est assez étonnante chez Augustin, j'évoquais ça un tout petit peu à table, mais... c'est qu'en fait, bon, à l'époque, pour les chrétiens, la peur de la mort, c'était une chose... il ne fallait surtout pas avoir peur de la mort. Si vous lisez saint Ambroise, non, si vous n'êtes pas un bon chrétien, si vous avez peur de la mort. Et Augustin, en fait, certainement aussi à travers le fait qu'il était un pasteur, qu'il avait vraiment contact avec son peuple, et puis aussi à travers la fréquentation de l'Écriture, il dit, mais après tout, non, la peur de la mort, c'est naturel. Le Christ a eu peur. Le Christ a été faible. Et du coup, il va complètement renverser le discours à ce sujet. Et c'est quand même extrêmement intéressant de voir la prise au sérieux des sentiments, des affects, y compris du Christ. Hein? Donc voilà, par exemple, un petit apport, peut-être. Notre question ?
C'est aussi des homélies. Alors peut-être que c'est de la rhétorique latine classique, mais je trouve ça... Il tutoie son assemblée bien souvent. Enfin non, mais il parle à la nature, il ne vous voit pas. Et moi, ça me fait plutôt penser à des... Parce que parfois, on peut entendre, mais enfin, ça dépend enfin, aujourd'hui. Et ça me perturbe toujours quand l'assemblée est tutoyée, mais je voulais savoir...
Ah, c'est pas l'assemblée qui est tutoyée, c'est parce que c'est d'une certaine façon... Il s'adresse à chacun personnellement dans l'assemblée.
Oui, non, mais c'est ça. Mais donc, il efface une assemblée, donc, mais il utilise le tutoiement pour pouvoir être plus personnel.
Ouais. Je voulais savoir mais si le, nous, ça, vous voyez bien que le vous, déjà en latin. Que le, disons que moi, si je prenais la traduction du 19e siècle, ils mettent un vous là où moi j'ai mis un tu.
Ah, et donc en latin, qu'est-ce que
c'est ? En latin, c'est tout, c'est tu, c'est tu. C'est tu, mais c'est parce que c'est la formule de politesse, elle n'existe pas en latin.
Oui, mais il y a un vous collectif qui existe.
Ah, oui, mais je vous dis, oui. Il s'adresse à chacun, à chacun. C'est bien pour ça que, là, pour le coup, il fait très souvent comme s'il s'adressait à chacun personnellement. Il peut parfois dire « vous ». Il le dit, d'ailleurs, bah, par exemple, je le disais dans le commentaire du psaume 61 à la fin, il s'adresse à toute la communauté. Il ne va pas dire « à tu », mais il veut dire « vous ». Vous allez l'accueillir, vous allez, etc. Donc, en fait, quand il dit « tu », c'est parce qu'il s'adresse à chacun singulièrement. Mais c'est pas, il n'y a pas de question de formule de politesse ou autre. Voilà. Ou de familiarité bizarre, quoi. C'est pas du tout de la familiarité, quoi.
Est-ce que vous voyez le commentaire du psaume 67 dans lequel cet Augustin compare Jésus à une montagne de fromage?
Ah oui, enfin, c'est le fameux texte.
Et qui a fait dire à Saint Bernard d'Ali que Jésus, c'est du fromage. Parce que, clairement, la blague, la question, c'est-à-dire que je crois qu'il part sur une comparaison entre Jésus à une montagne laiteuse, montagne de fromage, etc. Et en fait, il part d'une erreur de traduction, je crois, de la Septante. Et je me demandais dans quelle mesure est-ce que le fait qu'il se base sur un texte qui est quand même, aujourd'hui, on considère totalement erroné sur
plein d'aspects,
en quoi est-ce que ça affecte aussi quand même les commentaires qu'on peut faire enfin, en tout cas, notre lecture des commentaires, où finalement, on voit parfois qu'il va faire la lecture, mais qui est très... il commente un texte qui n'est pas celui qu'on lit, en fait. Qui est
ah, ça, c'est certain.
Et c'est un problème quand on veut essayer de s'en tirer quelque chose spirituellement ou théologiquement.
Oui, bah, disons que, comment dire, il y a beaucoup de perles, il faut accepter qu'il y ait aussi du déchet. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans ces commentaires des psaumes, vous avez des tas de choses que vous pouvez glaner. Bon, à côté de ça, il y a des choses dont vous dites, oh là, vraiment, il se complique beaucoup la vie. Disons que c'était un orateur... Quelqu'un qui avait l'habitude, un grammairien aussi, donc il prend le texte et finalement beaucoup plus, il a beaucoup plus qu'on le dit parfois, le respect de la lettre. C'est-à-dire, si le psaume a dit ça, ben le psaume a dit ça, malheureusement, je ne comprends pas du tout ce que ça veut dire, dit-il, mais ben, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors éventuellement, il me propose une interprétation, puis une deuxième, puis une troisième. Donc, ce qui me semble très intéressant, en tout cas, dans son attitude, au-delà de l'insuffisance de certaines explications, mais qui tiennent au texte défaillant qu'il a, enfin dans bien des cas, il peut y avoir d'autres raisons, mais je dirais ce qui me semble intéressant, c'est que du coup il est tout sauf dogmatique, c'est-à-dire qu'il cherche, pour lui il n'y a pas une interprétation en fait dans ces textes obscurs, donc il faut essayer de chercher, ben, on pourrait penser que c'est ça, on pourrait penser que c'est ça, et il dit finalement du point de vue de la règle en exégèse, le pire c'est ceux qui croient avoir le sens juste et que personne d'autre l'a. Ça, c'est l'intolérance, et je dirais c'est ce qui, pour lui, finalement, condamne leur interprétation. Parce que la priorité pour lui, l'enseignement de toute l'Écriture, vise à former la charité. Donc si mon interprétation est telle que je pense que toutes les autres interprétations sont mauvaises, je fais certainement fausse route. Voilà. Alors, cette fameuse histoire de montagne de fromage, je vois bien, vous pouvez aller lire, c'est le dernier volume de la bibliothèque augustinienne qui vient d'être publié. en 2025, donc c'est tout récent. Le commentaire a été fait par Jérémy Delmulle, qui est au CNRS, et qui effectivement s'est penché sur la montagne de fromage et les questions que ça posait. Bon, ça effectivement. Mais bon. Mais il y a des tas d'endroits un peu étranges et bizarres. Ça donne quelquefois des choses un peu baroques, parfois intéressantes. Hein. Il a beaucoup d'imagination, parfois.
Oui, c'est dans ce cas, c'est quand même assez...
oui, mais... Et alors là, il faut bien voir que ce texte-là aussi, c'est quand même intéressant de voir que ce n'est pas un commentaire prêché. D'accord. Autrement dit, comme c'est un commentaire dicté, il ne fait pas la même chose. Il n'aurait certainement pas fait ça. Premièrement, il n'aurait pas pris le psaume. Il choisit les psaumes qui sont quand même possibles à prêcher pour un... Bon, voilà. Il n'aurait pas pris le psaume, et c'est bien pour ça qu'il ne l'a jamais commenté de façon prêchée. Et si par hasard il l'avait pris, il aurait glissé, enfin, ou du moins il aurait dit bah là ce texte est obscur, je ne sais pas quoi, enfin je veux dire, mais. Donc dans un commentaire dicté a beaucoup plus la fonction d'une recherche. Donc là il peut essayer d'imaginer ce que ça pourrait vouloir dire. Parce que pourquoi a-t-il fait le commentaire dicté de ces psaumes? C'est comme je vous expliquais tout à l'heure, comme bah, tout le monde attendait ces commentaires des psaumes. Donc, les autres évêques, en 415, lui disent « Écoute, il faut que tu termines ton commentaire du Saint-Pierre, il faut que tu termines ton commentaire de l'Évangile de Jean. » Donc, en gros, il se met à dicter, ben, à faire des commentaires dictés de tout ce qu'il n'a pas fait pour terminer l'Évangile de Jean et pour terminer son psautier. C'est comme ça qu'il a commenté tout le psautier, ce qui est rarissime dans l'Antiquité. Je crois que personne d'autre l'a commenté intégralement, en tout cas à son époque.
Ouais. Est-ce que la controverse, je ne sais plus, sur la traduction de Courbita entre saint Jérôme et Augustin, ça, c'est pas dans les psaumes, non, je ne sais plus.
Non, ce n'est pas dans les psaumes, c'est un échange de lettres entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est... oui, c'est-à-dire que Augustin, c'est le jeune Augustin qui interroge Jérôme, qui prend ça de très très haut, qui lui dit, tu ne connais rien. Parce que non, le problème, c'est que Jérôme défend la traduction à partir de l'hébreu et lui, il défend la traduction à partir de la Septante. Et il se trouve que Augustin lui-même a eu un problème parce que la synagogue, les juifs, sont venus se moquer des interprétations qu'il donnait, quoi, vous voyez. En fait, Augustin, ne sachant pas l'hébreu, il dit, comment veux-tu que je... Bon, alors, en même temps, à la fin de sa vie, il va dire, écoute, transmets-nous tes commentaires. Mais là, c'était le tout jeune Augustin face à un Jérôme très sûr de lui et qui se moque un peu d'Augustin. Voilà. Et simplement, ça dit quelque chose d'important quand même. Vous avez deux traditions. C'est-à-dire, Jérôme, c'est, comment dire, l'exégète en chambre. Il ne prêche pas. Augustin, c'est le pasteur. Jérôme, donc, il a fait tout un travail, effectivement. Il a commencé par traduire la Septante, et ensuite, il a traduit le psautier. Hein. Bon, et après ça, il a traduit le psautier à partir de l'hébreu. Donc, juxta hebraeus. Bon, mais... Augustin, lui, premièrement, il ne savait pas l'hébreu. De toute façon, c'était un pasteur hyper débordé. Il était constamment sollicité. Il n'a pas du tout la même vie. Hein. Il est évêque, il va dans des conciles. Enfin, il a des responsabilités considérables. Lui, simplement, il constate une chose simple que beaucoup de pères de l'Église constatent. C'est-à-dire que l'Évangile, c'est la Septante qui est citée. C'est pas le texte massorétique dans bien des cas, ça dépend des endroits, hein, mais dans beaucoup de cas, c'est la Septante qui est citée. Donc, pour eux, la Septante, c'est le texte révélé. Et ce qui est très intéressant chez Augustin, c'est que, par exemple, dans la Cité de Dieu, il va dire, mais la Septante, donc cette traduction grecque, c'est une révélation qui poursuit la première. C'est une révélation adaptée au peuple grec, et à tous ceux qui parlent grec. Et donc, il n'oppose pas l'un à l'autre, mais il dit qu'il faut tenir compte, enfin, éventuellement sur certains textes, il montre l'apport des deux interprétations. Je donne un exemple, c'est Isaïe 7,9. Vous le connaissez sous la forme « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas ». Augustin, lui, à partir du grec, ça donne « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas ». Bon, qu'est-ce que vous voulez? Donc, il explique comment les deux peuvent être intéressants à comprendre. Mais en tout cas, si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas, c'est bien une sorte de clé herméneutique, la foi comme ce qui ouvre l'intelligence. Et à vrai dire, ça a été décisif dans son propre itinéraire en entendant Ambroise dire cela.
Oui. Et la traduction latine qu'il a de la Septante, est-ce que c'est ce qu'on appelle la Vetus Latina ?
Alors, c'est pas la Vetus Latina, c'est une Vetus Latina. Concrètement, lui, il a son texte s'apparente au psautier de Vérone. Donc, ce n'est pas un psautier africain, dans la plupart des cas, c'est le psautier de Vérone, donc un psautier qui vient d'Italie, du Nord. C'est pas le psautier romain qui est le plus connu, dont vous avez l'édition par Weber. C'est plutôt, ça s'approche du psautier de Vérone. Enfin, on compare, en fait, toutes ces versions. Hein.
Et parce qu'on entend souvent que, du coup, c'était une traduction assez défaillante du grec.
Oui, tout à fait.
Mais, j'ai une question à la fois, qu'est-ce que Saint-Augustin en pensait et qu'est-ce que nous, on doit en penser, mais comment est-ce qu'on fait la différence, au fond, entre une traduction qu'on va considérer comme inspirée, et donc les écarts sont limite voulus par Dieu, inspire le traducteur, et les traductions qui, objectivement, sont ratées et finalement nous apportent pas grand-chose de révélé dans les écarts qu'elles ont. Alors nous, aujourd'hui, déjà, c'est pas facile de savoir.
Pas évident.
Et est-ce que Saint-Augustin avait une réflexivité sur la traduction, se disant que oui, la Septante est révélée, par contre, notre traduction latine, peut-être qu'elle n'est pas faux-folle.
On est bien d'accord. Donc en fait, pour lui, la Septante est révélée, il ne parle jamais des traductions latines comme révélées. Il va même jusqu'à dire que quiconque savait un tant soit peu de grec s'était forcé de traduire en latin et ça vaut rien. Bon, c'est ça pratiquement ce qu'il vous dit. Et donc, le seul conseil qu'il donne, c'est de comparer les traductions. Bon, pour essayer de voir ce qui est le plus adéquat. Si on ne sait pas le grec, évidemment, il dit, si vous le pouvez, vous le confrontez au grec, mais au minimum, essayez de comparer les traductions pour ne pas absolutiser telle traduction par rapport à telle autre, et donc ne pas s'enfermer dans tel sens. C'est-à-dire que, vous voyez, une chose importante chez Augustin, c'est de comprendre que, par certains côtés, il relativise la lettre, au sens où Dieu peut nous parler à travers un psaume, à travers un texte même défaillant. Vous voyez, ce qui compte, c'est que le texte soit... le texte, c'est parole vivante. Enfin, donc, je veux dire, ce qui compte, c'est que le texte devienne parole vivante, mais à condition que Dieu... Enfin, en quelque sorte, que je sois à l'écoute du maître intérieur pour comprendre ce que Dieu veut me faire comprendre à travers ce texte. Et lui, il comprend la parole de Dieu de cette façon-là. Donc, il n'absolutise pas, il ne fiche pas le texte. Et finalement, le plus important, c'est pas de savoir les mots du texte exactement, c'est de comprendre ce que Dieu veut nous dire à travers ça. Ben voilà. Eh bien, puisque je concluais le cycle, écoutez, je vous souhaite une bonne suite avec le deuxième cycle, mais surtout, enfin avec le cycle suivant, mais je vous souhaite surtout de goûter les psaumes maintenant.
Merci. On va y aller. On va y aller.